filigrana imprecisa. Um toque de calçada e palavras imensas sussurram olhares precisos. Na Divergência FM.
Filigrane imprécis. Poésie, littérature, musique, lignes chaotiques, murmures clamés d'un chant portugais sur Divergence FM. Filigrane imprécis sur Divergence FM, le 93.9, une émission proposée par l'association Casamadis, l'association culturelle langue portugaise de Montpellier. Un rendez-vous hebdomadaire depuis quelques années. Je suis avec Tito Livio Santos Mota, qui est le président de Casamadis. Bonjour Tito.
Bonjour.
Alors ce matin, nous allons parler de poésie, mais juste avant, on va parler un petit peu de l'actualité de Casamadis. Tito, nous avons été à un concert il n'y a pas très longtemps.
Oui, c'était au JAM.
Au JAM, puisque le JAM rendait hommage à Carlos Jobim. Carlos Jobim qui est l'inventeur de la bossa nova, musique brésilienne s'il en est. Et on a assisté au concert. Et qu'est-ce que tu en as pensé, Tito?
C'était très, très, très bien. C'était surtout un concert de Paulinho Lemos et de toute sa bande. Alors, pour moi, c'était une découverte. En fait, moi, je ne connaissais pas Paulinho Lemos, qui est un auteur-compositeur.
Tu connaissais Jobim, quand même?
Oui, quand même.
c'est vraiment là.
C'était très, 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 très bon niveau. Il faut dire que ce n'est pas toujours le cas. On a quand même la chance à Montpellier, parce que nos amis brésiliens, ils font des efforts vraiment à Montpellier pour nous fournir des vrais chanteurs et des vrais compositeurs et des vrais musiciens. Brésilien et non pas, comme on dit au Brésil, ceux qui sont tombés de l'avion. Donc celui-là n'est pas tombé de l'avion, il est venu probablement en avion, mais il n'est pas tombé, il est bien monté dessus, bien descendu.
C'était un grand moment pour moi qui ai assisté au concert, je connaissais bien Jobim. Jobim c'est quand même une série de tubes incontournables que tout le monde connaît, et lui à la guitare, il y a eu des invités, c'était une soirée tout à fait magique.
Absolument, à la fin. Bon, les Français ne comprennent pas que la bossa, ça ne s'écoute pas comme un concert de musique classique. Donc, il y avait à peu près deux attitudes qu'à mon avis, il ne faut pas avoir. C'est celle d'être là comme un piqué en écoutant et celle de causer, être en train de namorar, de draguer la fille d'à côté au bar, en train de déranger tout le monde. Par contre, les Brésiliens, eux, ils comprennent très bien. Donc, il y avait un petit coin où ils ont même esquissé quelques pas de danse. Derrière moi, il y avait tout un tas de Brésiliens à côté aussi. Et évidemment, on sait qu'il y a des moments où il faut chanter avec parce que le chanteur, il aime. Les musiciens, ils aiment bien qu'on participe, que le public fasse du répondant. Il parlait que portugais et un peu de portugnol. Le portugnol, c'est un mélange portugais-espagnol. Donc aussi, il y avait un problème de communication pour faire comprendre au public que oui, vous pouvez chanter avec moi.
C'est vrai que moi, j'avais le problème, c'est que je ne connais pas les paroles. J'avais envie de chanter, mais je ne connais pas les paroles. Et c'est vrai qu'il y a les portugais et les brésiliens dans la salle qui connaissent les paroles par cœur, puisque Jobim, c'est quand même que des tubes qui sont connus universellement, mais que bon... Les paroles, il n'y a que les Brésiliens et les Portugais pour pouvoir s'en souvenir.
Sauf taper un rythme, parce que ça, c'est vraiment nul, vraiment ringue. Mais sinon, on peut faire la-la-la, c'est pas un problème.
Je ne m'en suis pas privé, d'ailleurs, quand je ne me souvenais plus des paroles exactes. Exactement. Je faisais un petit peu la-la-la. Voilà, c'était une merveilleuse soirée. D'ailleurs, on a le disque, on a un disque du musicien qui était présent ce soir-là, qui va nous accompagner pour toute la matinée.
Absolument, donc Paulinho Lemos.
Alors, ce qu'on va faire ce matin, on va parler un petit peu de l'activité de Casamadis, on va faire des petites pauses musicales, et après on va parler de Fernando Pessoa, puisque Fernando Pessoa, et on aime bien la poésie à filigrane, puisque on en parle depuis quelques années, on a essayé d'explorer tous les poètes portugais, on n'a pas encore exploré beaucoup, on a essayé un petit peu d'explorer les poètes de langue portugaise du Brésil, un tout petit peu du Cap-Vert, un tout petit peu de Saint-Thomé-Principe, mais on va multiplier ça à l'avenir, cette expérience de découvrir des poètes de langue portugaise qui ne soient pas que portugais. Et on parlera quand même aussi de Fernando Pessoa, puisqu'il y a l'Aude maritime qui va être montée au 13 vents, du 7 au 10 avril 2010. L'Aude maritime de Fernando Pessoa, alias Alvaro de Campos, et on va consacrer l'émission après Alvaro de Campos. Sinon, Tito, l'activité, les activités de Casamadis. Est-ce que tu peux nous en dire
déjà,
un peu
à propos de poésie non portugaise, il y a eu déjà quelques poèmes programmés au Printemps des Poètes.
Ah, ça a été une grande soirée quand même, ça.
Et Aldo do Espírito Santo qui vient de nous quitter, qui était de Saint-Tomé et Príncipe, ce merveilleux petit pays au large du golfe de Guinée, avec un pied de chaque côté de l'équateur. Aldo do Espírito Santo vient de nous quitter et Ferdinand Fortes qui a été très touché. Il m'a dit l'année prochaine, on va essayer de faire un programme uniquement Aldo do Espírito Santo. Voilà.
Alors, ce qui était curieux, entre guillemets, c'est que, avec Ferdinand, on avait décidé depuis plusieurs mois de consacrer une petite partie de ce printemps des poètes à cette poétesse, et elle nous a quittés une semaine avant le printemps des poètes.
Oui, c'était un hasard, je dirais pas heureux, parce que malheureusement, c'est pas le cas, mais disons que même des gens de Saint-Thomé ont cru qu'on avait fait exprès. Non, on n'a pas fait exprès, elle était bel et bien
c'était
programmée.
Prévu depuis longtemps.
C'était prévu déjà.
Depuis très longtemps. Et alors, les activités de Casamatis, je sais qu'on est en train de préparer un repas.
Alors, il y aura plein d'activités, mais en disant que... Parce qu'on vient de constituer un conseil consultatif de consulat, on a le consulat électronique, donc par Internet.
Un consulat virtuel.
Virtuel, le consulat par Internet qui vient d'être installé dans nos locaux. Où les Portugais de la région Languedoc-Roussillon pourront se déplacer pour faire les papiers qui n'obligent pas une présence personnelle, c'est-à-dire empreinte digitale et signature. Donc, mais c'est quand même énorme déjà, tous les certificats, les attestations, les extraits d'acte de naissance, les actes de propriété, les changements de matriculation de voiture, enfin toutes sortes de choses.
C'est-à-dire qu'à Casamadis, on va servir de relais, parce qu'il n'y a pas de consulat portugais à Montpellier, mais on va servir de relais pour les choses de base qu'on peut faire avec le virtuel.
Voilà, c'est presque un consulat honoraire, mais en fait, au niveau des papiers, un consul honoraire n'aurait pas pu faire mieux, mais on n'a pas l'autorité d'un consul honoraire, bien entendu. On ne représente pas le Portugal officiellement.
Mais c'est quand même une belle reconnaissance pour Casamadis.
Bon, oui, mais c'est surtout un bel outil pour les Portugais de la région, qui sont assez nombreux, surtout du côté de Perpignan et de Frontignan et de Lunel, et à Nîmes aussi, et qui n'auront plus besoin de faire des kilomètres jusqu'à Marseille pour venir chez nous. C'est quand même un peu plus près.
Bon, je crois savoir qu'il faut prendre rendez-vous quand même pour faire les papiers, puisque nous sommes tous bénévoles. Donc, il faut nous passer.
Nous sommes ouverts de 16h à 18h. S'ils se présentent entre 16h et 18h à nos locaux, il y aura quelqu'un. Sinon, un coup de fil, si c'est vraiment urgent, on pourra s'arranger.
On va rappeler l'adresse des locaux ?
Les locaux, c'est à l'espace Jacques 1er d'Aragon, 117 rue des États Généraux, c'est-à-dire place de la Révolution française.
Et on n'en est pas peu fiers.
C'est dans le quartier Richter, c'est à 5 minutes exactement de la gare, hein, 3 stations de tram, donc il n'y a que des facilités.
Alors, je parlais de repas tout à l'heure, puisque je sais que tu as vu notre cuisinière, Marie-Ange, hier, pour organiser un repas bientôt.
Oui, on va.
Repas portugais.
Alors, comme chaque année, on va fêter la révolution des œillets, donc le retour à la démocratie du Portugal, et aussi le début des processus d'indépendance des pays africains de langue portugaise. Ça, on le fait chaque année, c'est pas une nouveauté, mais cette année, on va rajouter aussi les commémorations du centenaire de la République laïque au Portugal, c'est-à-dire la République laïque qui a été implantée le 5 octobre 1910.
C'est un plaisir chaque année, mais c'est un plaisir renouvelé.
Alors, on va faire un repas républicain, hein, un repas portugais. Là, ce sera vraiment... En général, on essaie de faire un petit rappel aux autres pays de langue portugaise, mais là, surtout à l'Afrique. Mais là, ce sera vraiment que portugais, puisque c'est la République portugaise qu'on fête. Là.
Alors, avec Marie-Ange, vous avez quelques idées de ce qui vous
allez proposer ? Oui, on va faire ma caldeirada, ça c'est le plat de résistance. La caldeirada, ce n'est pas du tout une soupe de poisson, c'est un ragoût de poisson. Donc c'est consistant, c'est bon,
C'est typiquement portugais.
Voilà. Ah bah, oui, ça c'est très portugais, avec des produits qui vont venir là-bas, puisqu'elle va s'y déplacer, elle va nous ramener des choses.
Oui, Marie-Ange, je vais aller directement chercher ses produits au Portugal.
Au Portugal, le vin, tant par exemple. En entrée, on aura bacalhau chiado. Bon, bacalhau chiado, normalement, c'est un plat de résistance, mais là, on va faire...
Des petites portions.
Des petites portions avec une grosse salade. Mais alors, la salade à la portugaise, c'est-à-dire avec l'oignon cru, des tomates qui tiennent, hein, et pas ces tomates sauce qu'on met dans les salades en France. des tomates qui tiennent quand on les croque. Hein. C'est ça la salade, avec de la salade verte, évidemment. Un bon vinaigre de chez nous, hein, qui est doux. Hein, et pas
celui c'est du vinaigre de vin blanc.
Voilà, et pas celui qu'on trouve dans les hypermarchés où on peut faire plutôt ses carreaux avec. Voilà, ce sera il y aura une farandole de dessert comme l'année dernière. Donc
c'était superbe l'année dernière. La farandole de dessert, j'en ai encore un souvenir.
On se jetait dessus. Et il va falloir se battre, hein, parce qu'il y aura de la variété. Hein, donc il faut être un peu écuménique dans la chose, parce que sinon, si tout le monde se jette sur le même.
Mais on fait confiance à Marie-Ange pour que ça soit délicieux.
Il n'y a pas de problème. Et il n'y a rien resté l'année dernière. C'est terrible, parce que je comptais un petit peu.
On va avoir un petit peu de reste.
Voilà. Alors, quelques fruits aussi,
Tito, tu rappelles
café,
la date
du vin vert, parce que ça
les gens aiment
bien, vigno verde, mais aussi du vin rouge portugais qui va bien avec le poisson, un vin léger et frais qu'on va faire venir de là-bas, qui va se marier avec le ragoût de poisson.
Alors, ça aura lieu quand, où et pour quel prix?
Alors, c'est le 1er mai. Puisque le 25 avril, c'est encore les vacances scolaires. Et à Montpellier, c'est une ville où les gens partent beaucoup pendant les vacances scolaires. Donc, on essaie toujours de faire les choses en dehors de cette période. Je crois que nos amis de Frontignan feront quelque chose pour le 25 avril. On l'annoncera à ce moment-là. Et nous, c'est donc le 1er mai. C'est le samedi suivant. C'est entre 19h30 et 20h, vous arrivez. Hein. Si vous arrivez 19h30, vous aurez un petit apéro. Sinon, vous vous installez pour dîner. Et c'est 15 euros.
15 euros, c'est
15 euros
pas
tout compris.
Et tout ce qu'il y aura. Voilà, on va faire une petite pause musicale avant d'aborder un petit peu de poésie. Qu'est-ce que tu nous proposes donc en rapport avec le concert qu'on a assisté au JAM?
Alors, pour les réservations, 04 67 64 02 75.
Une fois encore?
04 67 64 02 75.
Voilà, qu'est-ce qu'on va écouter maintenant?
Alors, de Paulinho Lemos en musique, on va écouter, excusez-moi, Timoneiro.
Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. E quanto mais remo, mais rezo pra nunca mais se acabar. Essa viagem que faz do mar em torno do mar. Meu velho um dia falou com seu jeito de avisar. Olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar. Olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como nem fosse. se levar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. Timoneiro nunca fui, eu não sou de velejar. O leme da minha vida, Deus é quem faz governar. E quando alguém me pergunta como se faz pra nadar, explico que eu não navego, quem me navega é o mar. Explico que eu não navego, quem me navega é o mar. Do meu destino parece a de um pescador. Quando retorna vazia, vem carregada de dor. Vivo no redemoinho, Deus bem sabe o que ele faz. A onda que me carrega é ela mesma quem me traz. A onda que me carrega é ela mesma quem me traz. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. É ele quem me carrega como nem fosse levar.
Filigrane apprécie sur Divergence FM le 93.9, l'émission consacrée aux cultures de langue portugaise. Alors Tito, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là?
C'était Timoneiro de Paulinho Lemos. Pardon, je m'assois.
Alors on va parler maintenant un petit peu de poésie, puisque je disais tout à l'heure que bah, l'ode maritime de Fernando Pessoa, alias Alvaro do Campos, va être joué. Les liaisons mal à propos, va être joué du 7 au 10 avril 2010 au 13 vents. Alors, Fernando Pessoa, Alvaro do Campos, c'est quoi Alvaro do Campos? C'est un hétéronyme.
C'est un hétéronyme, c'est un être qui n'a pas d'existence réelle, mais qui a une existence littéraire.
C'est-à-dire qu'en fait, Fernando Pessoa, le grand poète Fernando Pessoa, est parti d'un thème qu'il a trouvé dans Rimbaud, « Je est un autre », et à partir de cette idée-là, il a créé 70, à ma connaissance, 70 autres personnalités avec un style différent, avec une existence, avec une biographie. Et dans ces 70 personnalités, il y a une personnalité qui s'appelle Alvaro do Campos.
En fait, ce sont des écrivains, puisque chacun a son style. Et chacun est un écrivain, c'est un style. Donc ce sont de vrais écrivains séparés, mais tous écrits par la même personne physique qui est Fernando Pessoa.
Et en fait, ils ont chacun leur biographie. Il y a même une correspondance qui s'est faite entre les hétéronymes, entre Fernando Pessoa, Alvaro do Campos, Bernardo Suarez, j'en oublie, Ricardo Reis et 70 autres. Il y a eu une sorte de d'existence virtuelle avant la lettre de tous ces écrivains.
Alors on peut parler vraiment comme s'il avait existé physiquement. Hein. Il est né donc le 13 octobre. Octobre 1890, c'est bien précis, à Tavira.
Alvaro do Campos.
Alvaro do Campos, évidemment. Alvaro do Campos, il est né le 13 octobre 1890 à Tavira, a étudié en Écosse l'ingénierie, notamment navale, a visité l'Irlande, est parti en Orient, d'où il a ramené une œuvre qui s'appelle Opiario, donc il s'est donné à l'opium, et il a connu trois phases littéraires, c'est le seul qui a des phases littéraires, donc qu'on détaillera plus tard, peut-être, parce qu'à mesure qu'on va faire
on va y arriver. Et moi, je pourrais dire, c'est que autant Alvaro de Campos est extraverti, c'est-à-dire une émanation de Pessoa, et autant Pessoa lui-même était introverti.
Ça, on ne le sait pas, parce que sa famille dit qu'il aimait bien rigoler. C'était quelqu'un qui, en cercle fermé, était très extraverti.
Pessoa.
Oui, Pessoa. Donc, l'image qu'on a de ces photos, où il est, parce qu'il était fonctionnaire, il n'était pas fonctionnaire public, mais il était employé d'une compagnie. Et à l'époque, tout le monde s'habillait comme ça, en costume, cravate, très étriqué,
avec son chapeau mou. Il avait l'air d'un petit fonctionnaire.
Voilà, donc ça c'est ce qu'on voit dans les photos, en sautant de son tramway pour aller à son travail, où il faisait du travail d'écriture, de traduction, des choses comme ça. Mais tous nient ça. D'ailleurs, il était l'animateur d'une bande de joyauderies quand même, tous ses contemporains qui ont travaillé, il était chef de file d'une bande de zozos quand même assez allumés. Donc ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit vraiment quelqu'un d'extrêmement morose, à moins que ce soit par contrepoint à tous les autres, parce que Armada Negrés qui n'avait pas bon caractère, lui c'était pas un rigolo, mais c'était quelqu'un d'acide, c'était, il avait une humeur acide. Il y avait Santa Rita Pintor, qui était une personnalité fantasque, qui s'habillait comme un clown, mais dans la vie réelle, il portait des grandes vestes à carreaux. Imaginez ça en 1915-1917.
Ah oui, il faut bien resituer l'époque, en 1915.
Donc, avec des cheveux longs, enfin, des trucs qui ne se faisaient pas du tout à l'époque. Ça, c'était l'univers où c'était l'univers qu'il côtoyait. Après, il y avait des littéraires, il y avait un Brésilien, il y avait, même des gens qui sont devenus après des pontes du régime fasciste, même. Donc, oui. Ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient des tristes non plus, mais bon. D'ailleurs, il faut dire que ceux qui sont morts avant, on peut rien dire, mais de ceux qui étaient vivants en 1933, entre 1926 et 1933, le seul qui était vraiment antifasciste était Fernand Pessoa.
Voilà. Et n'oublions pas que toute cette petite bande, ne pas oublier Mario de Sacarnero, qui a été très important aussi pour l'idée chez Pessoa de la création des hétéronymes.
C'était quelqu'un de torturé, mais par exemple, il a écrit presque une espèce de d'ode funéraire pour lui-même qui a mourir de rire. Elle est amère, mais elle est très drôle.
On a fait plusieurs émissions sur Mario de Sacarnero.
Il faut me mettre sur un âne, etc. Arnaché à l'Andalouse, c'est-à-dire avec des petits gris-gris, des trucs comme ça.
Alors toute cette bande-là a créé le futurisme. Et d'ailleurs, Mario de Sacarnero, il s'est suicidé.
Oui.
Et ça me permet d'embrayer sur le côté un petit peu provocateur.
Et Santa Rita Pintor a demandé qu'on détruise toute son œuvre. Il n'y a qu'un tableau qui a échappé au massacre. Donc, oui. Oui, ils étaient torturés quand même. ils n'étaient pas des gens extrêmement, disons, la joie de vivre n'était peut-être pas l'apanage, mais de là à dire que c'était des gens moroses, ça m'étonne.
Non, mais il y a une certaine ironie quand même. On va le voir parce que le suicide de Mario de Sacarnero, ça me permet d'embrayer avec un texte de Alvaro de Campos, qui était un provocateur. Et c'était le plus pédéraste de tous, en fait.
Oui.
Cet hétéronyme de Pessoa. Pessoa, on sait pas.
Pessoa, dont on ne connaît absolument pas sa sexualité.
Est-ce qu'il en avait une seulement ? C'est pas du tout évident.
C'est pas évident.
Voilà. Et Alvaro de Campos, qui était pédéraste assumé, extravagant, et il va écrire un texte que je vais essayer de vous lire sans l'écorcher trop, qui est une espèce de poème, qui est une incitation au suicide. Puisque tu veux te tuer, pourquoi pas tout de suite ? Ah, crois-moi, n'attends pas. Moi qui aime autant la mort que la vie, si j'en avais le courage, je me tuerai immédiatement. À quoi bon au dehors ce défilé d'images qu'on appelle le monde ? Ce film des heures qui passent, joué par des acteurs aux gestes conventionnels, ce cirque bariolé de notre agitation perpétuelle. À quoi bon cet espace intérieur dont tu ne sais rien ? C'est peut-être en te tuant que tu réussiras à le connaître. Peut-être la fin est-elle un commencement. Et de toute manière, puisque tu es là de l'existence, ah, sois-le avec dignité. Et ne chante pas la vie comme moi quand tu as bu, pour invoquer la mort, comme moi en faisant de la littérature. Qui donc te regrettera ? Les autres ? Quelle illusion ! Ce sont des ombres. On ne laisse jamais de regrets. Tu ne manqueras à personne. Toi parti, eh bien, tout continuera sans toi. Si tu vis, ce sera peut-être pire pour certains que si tu te tuais. Tu fais peut-être plus de mal en survivant qu'en cessant de vivre. Le chagrin des autres, as-tu d'avance le remords des pleurs que tu feras verser ? N'aie crainte, on ne te pleurera guère. L'élan vital sèche vite les larmes, quand ce n'est pas sur soi qu'on pleure. Mais sur les malheurs des autres, à plus forte raison sur leur mort, puisqu'elle met fin à leur malheur. Leur première réaction, ce sera l'angoisse devant le mystère, l'étonnement de ne plus te trouver tel qu'on te décrivait de ton vivant. Puis viendra l'horreur de la réalité matérielle du cercueil et de la présence professionnelle des hommes en vêtements de deuil. Tes proches, inconsolables, bavarderont en veillant le corps, mécontents d'avoir à éprouver la peine de ta mort et toi, la cause fortuite de tout ce tracas, tu seras bien mort, beaucoup plus mort que tu ne crois, même si tu es beaucoup plus vivant quelque part ailleurs. Puis ce sera le tragique escamotage dans le caveau ou dans la fosse. Alors, le souvenir qu'on avait de toi commencera à son tour à mourir. Au début, tout le monde se sentira soulagé d'avoir échappé à la tragédie passablement ennuyeuse de ta mort. Puis, on recommencera à parler sans contrainte et la vie quotidienne reprendra son cours. Ensuite, viendra lentement l'oubli définitif. On ne pensera plus à toi que deux fois par an, pour l'anniversaire de ta naissance et pour celui de ta mort. Autrement, jamais plus, absolument jamais. Oui, ils penseront à toi deux fois par an. Ils pousseront un soupir en pensant à toi deux fois par an, ceux qui t'auront aimé. Ils soupireront aussi de temps en temps s'il est par hasard question de toi dans la conversation. Regarde-toi en face, froidement. Regarde froidement en face ce que nous sommes. Puisque tu veux te tuer, fais-le maintenant. Pas de scrupules moraux, pas d'appréhensions intellectuelles. La mécanique de la vie a-t-elle des scrupules, des appréhensions ? Quel scrupule chimique a donc la force qui fait monter la sève, circuler le sang, aimer ? Quel souvenir le rythme joyeux de la vie garde-t-elle des autres ? Ah, misérable vanité de chair et d'os appelée homme, ne vois-tu pas que tu n'as absolument aucune importance ? Tu es important pour toi ? Parce que c'est toi que tu sens. Tu es tout pour toi, parce que pour toi tu es l'univers. Tout l'univers, et même les autres, satellites de ta subjectivité objective. Tu es important pour toi, parce que c'est toi, uniquement, qui compte pour toi. Et si tu es ainsi, au mythe, les autres le seront-ils pas aussi ? As-tu comme Hamlet la terreur de l'inconnu ? Mais qu'est-ce qui est connu ? Qu'est-ce que tu connais pour nommer inconnu quelque chose en particulier ? As-tu comme Falstaff l'amour plantureux de la vie ? Si tu l'aimes ainsi matériellement, aime-la encore plus matériellement. Deviens partie charnelle de la terre et des choses. Disperse-toi, système physico-chimique de cellules nocturnement conscientes, dans la conscience nocturne de l'inconscience des corps, dans la grande couverture qui ne couvre rien des apparences, dans le gazon et dans l'herbe de la prolifération des êtres, dans la brume atomique des choses, dans la paroi tourbillonnante du vide dynamique du monde.
É sempre assim, um estopim, meu coração. Tem dó de mim, eu já perdi a afinação. Meu peito assim, bate ruim. Recordação farra do boi entre nós dois, sangue ficção. É mesmo assim, um estopim, minha emoção. Pena de mim, eu te pedi fascinação. Meu peito assim bate ruim, recordação farra do boi entre nós dois. Sangue ficção. Eu sei que todo papo de amor sempre tem um novo bem, mas também sei que todo caso de amor sempre tem um sofredor. É sempre assim, um trampolim, a taça do amor entre encher nos faz beber algum de sabor. Bate ruim, recordação farra do boi entre nós dois, sangue ficção. Eu sei que todo papo de amor sempre tem um novo bem, mas também sei que todo caso de amor sempre tem um sofredor. É sempre assim, um trampolim, a taça do amor entre encher nos faz beber algum de sabor. É sempre assim.
Fica Filigrane imprécis sur Divergence FM 93.9. C'est l'émission proposée par Casa Amadis, l'association culturelle et langue portugaise de Montpellier. Une matinée ce matin consacrée à l'Aude maritime, pas à l'Aude maritime, mais plutôt à son auteur Álvaro de Campos, alias Fernando Pessoa. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Tito, sur ce qu'on vient d'entendre ?
On vient d'écouter Coração Estupim de Paulinho Lemos.
Alors, Álvaro de Campos, l'un des hétéronymes de Fernando Pessoa, vous en avez eu un petit échantillon juste avant la pause musicale. C'était quand même un provocateur. Tu me disais qu'il avait eu plusieurs périodes dans son œuvre.
Alors là, c'était typique de la troisième, de la période pessimiste. Il en a eu trois. Donc, la première décadentiste, qui est représentée surtout par... Je crois que ça s'appelle en français, ça a été traduit par opium, je crois. Oui. Ben, c'est opiário en portugais. La deuxième, qui est la plus connue, c'est la période futuriste. Il y a surtout l'ode maritime là-dedans. Et tu vas lire, je crois, une ode.
On va lire de plusieurs odes ce matin. Et on va,
ode à Walt Whitman, déjà.
Que je dirai tout à l'heure.
Et là, tout de suite,
c'est l'ode martiale.
L'ode martiale, voilà, qui sont caractéristiques de cette deuxième phase.
Voilà, alors donc, Álvaro de Campos, donc un hétéronyme de Fernando Pessoa, qui a son existence propre, comme on le disait tout à l'heure, comme la plupart des hétéronymes de Fernando Pessoa. Rappelons qu'il y a eu en total 70 hétéronymes, et que le dernier hétéronyme qui devait voir le jour, qui n'a pas eu le temps de voir le jour, puisque la cirrhose a emporté Fernando Pessoa avant qu'il puisse vraiment écrire les œuvres de cet hétéronyme, ça devait être une femme, Daisy.
Oui, il a abusé du café, du pousse-café.
Surtout du pousse-café, hein, parce que je ne pense pas que ce soit le café qui arrive à faire une belle cirrhose, comme il a eu.
Ça n'aide pas.
Alors, l'ode martiale, pourquoi je l'ai choisi ? Parce que ça me semble faire un petit peu écho à l'ode maritime dans un autre genre. C'est-à-dire, c'est cette extravagance, cette violence qui peut y avoir dans l'ode maritime. Et là, c'est une ode martiale. J'y vais ?
Allons-y.
Innombrables fleuves sans eau, seulement des gens, des choses, effroyablement sans eau. De lointains tambours résonnent à mon oreille, et je ne sais pas si je vois le fleuve, si j'entends les tambours, comme si je ne pouvais pas simultanément voir et entendre. Héla, oh, oh, héla, oh, oh. La machine à coudre de la pauvre veuve tuée à coups de baïonnette. Elle cousait le soir, indéfiniment. La table où les vieux jouaient ensemble. Tout n'est plus qu'un mélange de corps et de sang. Un seul fleuve, un seul courant, une seule horreur rampante. Héla, oh, oh, héla, oh, oh. J'ai déterré le train en fer blanc, le jouet de mon enfance qu'on avait piétiné au milieu de la route. Et j'ai pleuré comme toutes les mères du monde sur l'horreur de la vie. Mes pieds panthéistes ont buté contre la machine à coudre de la veuve tuée à coups de baïonnette, tandis que ce pauvre instrument de paix transperçait mon cœur d'une lance. Oui, c'est moi le coupable de tout. C'est moi les soldats qui ont massacré, violé, brûlé, torturé. C'est moi, avec ma honte, avec mon remords et mon ombre difforme, qui, tel Achaverus, erre à travers le monde. Mais derrière mes pas résonnent d'autres pas à la mesure de l'infini. La pensée physique de rencontrer Dieu me fait brusquement fermer les yeux de terreur. Christ absurde de l'expiation de tous les crimes et de toutes les violences, ma croix, je la porte en moi, blessante, brûlante, coupante, et tout me fait mal dans mon âme vaste comme l'univers. J'ai retiré à l'enfant son jouet, je l'ai battu. Ses yeux, apeurés comme ceux du fils que j'aurais peut-être et qu'ils tueront aussi, m'ont imploré sans savoir et ressemblaient à toute la pitié du monde. Dans la chambre de la vieille, j'ai arraché la photo du fils, et je l'ai déchirée. Elle a pleuré, elle n'a rien fait, paralysé de terreur. J'ai soudain pressenti qu'elle était ma mère. Dans mon dos s'est glissé le frisson de Dieu. J'ai brisé la machine de la pauvre veuve. Elle pleurait dans un coin sans penser à la machine à coudre. Y aura-t-il un autre monde où je devrais avoir une fille qui deviendra veuve, une fille à qui pareille chose adviendra ? J'ai fait, mon capitaine, fusiller tous les paysans tremblants de peur. J'ai laissé violer les filles sous les yeux de leurs pères attachés aux arbres. Et maintenant j'ai vu que c'est dans mon cœur que tout cela est arrivé, que tout brûle et me fait perdre le souffle, et que je ne peux faire un geste sans que tout reste identique. Que Dieu prenne pitié de moi, car je n'ai eu pitié de personne.
Fez luar da lua de outro luar. Em luar arde luz, um outro luar, luar. E entre nós o mar, para nos distanciar. Mesma luz, mesmo mar, mais outro luar, luar. Nesse mar as marés vêm de um mar de outro lugar. Mar de velas a mar, mais o sal de outro lugar. Para navegar, para nos aproximar. Mesmo mar, mesmo luar, mais outro lugar. Vida mar, vida luar, mais outro lugar. Mar, vida, luar, mais outro lugar.
Et avec ce beau refrain qui vient du Brésil, on est toujours sur Filigrane Imprécis, sur l'émission proposée par Casamadis. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Tito ?
Vida Mar, Vida Luar.
L'interprète ?
Paulinho Lemos.
Alors nous parlons ce matin de Álvaro de Campos. Álvaro de Campos, l'hétéronyme extravagant de Fernando Pessoa, puisqu'il va y avoir au mois d'avril une représentation au Théâtre des 13 Vents consacrée à l'Ode maritime, dont on ne parlera pas ce matin, puisqu'on en parlera la semaine prochaine. L'Ode maritime, peut-être l'œuvre la plus célèbre d'Álvaro de Campos, alias Fernando Pessoa.
Qui fait partie de la même phase que ce qu'on vient d'entendre. Par contre, là, on a un peu de tout. On a du décamantisme, c'est évident. On a des références quand même à Grajonqueir, quelque part, avec la petite vieille, des images comme ça. Et il y a la machine à coudre, monde moderne qui est représenté par la machine à coudre. Il y a la décadence de la vie, le saudousisme aussi, la saudade, qui est un thème très caractéristique des décadentistes du fin de siècle portugais, enfin du 19e siècle.
Ce que tu appelles les décadentistes et les décadents, en fait.
C'est pas du tout le même contexte qu'en France. Parce que la fin de la monarchie au Portugal, c'est une décadence.
D'accord.
C'est une décadence par rapport au 19e siècle, sa pougeance, sa l'entrée dans la modernité dans la révolution industrielle. Alors que la fin de la monarchie est un recul par rapport aux acquis du 19e siècle, notamment par rapport à la religion, par rapport à tout un tas de valeurs. Et aussi la décadence de notre empire colonial, que la République va essayer de sauver et qui a sauvé. Hein, c'est un fait. Et Fernando Pessoa, il écrit déjà une fois que la République est installée, même s'il n'était pas très, très ami avec la République telle qu'elle était faite.
Il était ami avec quoi, en fait ?
Il était plutôt un anard, peut-être un anard de droite, quelque chose.
C'est pas évident, en fait.
Non, mais il n'était pas vraiment de droite non plus.
Non plus, parce qu'il s'est opposé à Salazar, quand même.
Ah oui, il était antifasciste, ça c'est clair. Il supportait pas les dictateurs. Donc, de toute façon, et puis la monarchie a fini pratiquement en dictature, sauf les deux dernières années. Donc, c'était pas ça qu'il critiquait. Oui, le parlementarisme bourgeois, ça le gênait quand même. Mais il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas le côté bourgeois, boutiquier, citadin de la République. Ça, il n'aimait pas ça. Le côté petit bourgeois, c'était une République petite bourgeoise. Ça, il n'aimait pas ça. Mais il n'aimait pas non plus la monarchie telle qu'elle était devenue à la fin au début du XXe siècle, c'est-à-dire vraiment beaucoup plus liée à la terre, aux grands propriétaires terriens, etc. Ça, il n'aimait pas ça non plus. Des gens qui tenaient les gens sur leur coupe, sous la coupe de l'Église et analphabète, c'était pas quelque chose qu'il appréciait non plus. En même temps, c'est quelqu'un qui se place nulle part. C'est pour ça qu'il n'a pas eu le parcours d'un Marinetti, par exemple, en Italie, qui a fini fasciste, oui. Et qui s'est engagé tout de suite dans le fascisme, etc. Lui, pas du tout, ça lui convenait pas non plus.
Il y a des futuristes.
Marcher au pas, c'était pas son truc.
Il y a des futuristes portugais qui ont fini fasciste.
Oui.
Comme beaucoup de futuristes.
Mais pas forcément marchant au pas, sauf un ou deux, les uns parce qu'ils croyaient que Salazar, par exemple, par Madrigal, je crois que profondément parce qu'il croyait que Salazar allait protéger l'empire colonial. Il était né à Saint-Thomé, fils de planteur. Il y avait beaucoup ça. Il est mort en 1970, en pleine guerre coloniale, et il a fait des déclarations absolument affreuses en défendant le fait qu'on fasse la guerre coloniale, etc., qu'il fallait protéger l'Empire, etc. Donc je crois que profondément, c'était ça qui l'attirait chez Salazar.
Ce qui n'empêchait pas aussi d'être un extraordinaire poète.
Et puis c'était quelqu'un de très intransigeant, donc l'intransigeance dans Salazar lui convenait. Mais ce n'était pas quelqu'un qui aimait le conservatisme du régime. stratégie, mais au niveau moral, religieux, tout ça, ça s'en foutait complètement de ce truc-là. Moi j'ai du mal à situer, comme tout le monde a du mal à situer Fernand Pessoa, mais c'était quelqu'un qui en tout cas marchait au pas, le cléricalisme et tout ça, c'était pas son truc non
du
plus,
tout, hein,
ça c'est sûr et certain. Mais l'esprit boutiquier qu'il y avait aussi dans la République, il faut bien le dire, ne lui convenait pas davantage. Il serait plus du côté des ouvriers que du côté des grands industriels républicains, et même en même temps, pas forcément du côté des ouvriers comme un anarcho-syndicaliste ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était un personnage complexe, il se situait nulle part.
C'est une espèce d'anarch qui n'est ni de gauche ni de droite, une espèce d'anarch un peu complexe.
Voilà.
En même temps opposé aux dictatures, puis en même temps opposé à la démocratie, opposé aux royalistes, opposé un petit peu à tout.
Comme beaucoup de gens, il n'aimait pas beaucoup dans la démocratie le fait que ce soit le juste milieu.
Oui.
C'est le côté juste milieu de la démocratie qui le gênait. Mais voilà, je ne crois pas que c'était quelqu'un qui... Non, ce n'est pas une question de croire. C'est évident que ce n'était pas quelqu'un qui souhaitait un Hitler ou un Franco.
Ah, surtout pas.
Ou même un Salazar, cette espèce de petit curé défroqué qui est étriqué. Néanmoins, quelqu'un de très cultivé, pourtant. Mais au contraire de Franco ou d'Hitler, qui n'avait aucune culture, ou même de Mussolini et Salazar, il était quelqu'un qui avait une solide culture classique. Hein. C'était quelqu'un de cultivé.
Cultivé et réactionnaire, ça n'est pas antinomique.
Non, comme Maurras ou des gens comme ça, voilà, c'était plutôt un Maurras.
Même le général de Gaulle était au départ plutôt réactionnaire. Hein.
Oui, mais il le dit dans ses mémoires, d'ailleurs ouais, c'est ouais. Intéressant de lire les mémoires du général de Gaulle. C'est bien écrit en plus.
On va passer à autre chose, on va toujours continuer avec Alvaro de Campos.
Oui, là on s'éloigne.
Je signale quand même que les œuvres poétiques d'Alvaro de Campos ont été traduites par Michel Chandaigne et Pierre Léglise-Costa. Pierre Léglise-Costa qu'on a reçu à Casa Amadis et qu'on a reçu à Divergence FM il n'y a pas très longtemps, au mois de décembre.
Il y a qui en a donné un Amadis d'honneur pour son travail en défense de la langue portugaise.
Et des cultures de langue portugaise.
Absolument.
Et là, j'ai choisi, on va faire des extraits puisque c'est un long texte, un salut à Walt Whitman. Qui était Walt Whitman, Tito ?
C'était un poète américain, tu connais ça mieux que moi.
Walt Whitman, c'était en France, le poète emblématique, c'est Victor Hugo. Pour les Américains, c'est Walt Whitman. Et pourquoi est-ce que Alvaro...
Qui était aussi pédé que Hugo était hétéro.
Voilà, j'allais dire les choses autrement. Mais bon, c'est vrai que Walt Whitman préférait de loin la compagnie des jeunes garçons à celle des jeunes filles. Et donc, Alvaro de Campos... Qui est l'hétéronyme un petit peu pédéraste de Fernando Pessoa ? C'est un petit peu logique qu'il fasse un hommage à Walt Whitman. À signaler qu'en France, Walt Whitman a été traduit par André Gide. Le grand ouvrage de Walt Whitman, c'est un ouvrage que je vous conseille.
Les chiens ne font pas des chats.
Voilà, un ouvrage que je vous conseille, c'est Feuilles d'herbe. Voilà. Donc, salut à Walt Whitman de Alvaro de Campos, traduit par Michel Chandaigne et Pierre Léglise-Costa. Portugal infini, 11 juin 1915. Oh là ! D'ici même, du Portugal, toutes les époques de mon cerveau, je te salue, Walt. Je te salue, mon frère en univers. Moi, avec mon monocle, avec ma veste exagérément cintrée, je ne suis pas indigne de toi, Walt. Tu le sais bien, je ne suis pas indigne de toi. Il suffit de te saluer pour ne pas l'être. Moi, si peu énergique, si facilement gagné par l'ennui, je suis à toi. Tu le sais bien, je te comprends et je t'aime. Et bien que je ne t'ai pas connu, né l'année de ta mort, je sais que tu m'as également aimé, que tu m'as connu, et j'en suis content. Je sais que tu m'as connu, que tu m'as contemplé, que tu m'as expliqué. Je sais que je suis ainsi, que ce soit à Brooklyn Ferry, 10 ans avant que je naisse, que ce soit le long de la roi des Ouros, en pensant à tout ce qui n'est pas la roi des Ouros. Et de la matière dont tu as tout ressenti, je ressens tout. Et nous voici main dans la main. Main dans la main, Walt. Main dans la main, dansant l'univers au creux de mon âme. Oh, toujours moderne et éternelle, chantre des concrets absolus, concubine fougueuse de l'univers dispersé, grand pédéraste te frottant à l'adversité des choses, sexualité par les pierres, par les arbres, par les gens, par les métiers, rue des passages, des rencontres fortuites, de simples observations, mon cher enthousiaste pour ce qui contient tout. Mon grand héros qui entre dans la mort par une cabriole, un rugissement, cri et hurlement pour saluer Dieu. Chantre de la fraternité féroce et tendre avec tout, grand démocrate épidermique contigu à tout, corps et âme. Carnaval de toutes les actions, bacchanal de tous les propos, frère jumeau de tous les arrachements, Jean-Jacques Rousseau du monde qui devait produire les machines. Homère de l'insaisissable du charnel fluctuant. Shakespeare de la sensation qui va marcher à la vapeur. Milton Shelley de l'horizon de l'électricité future. Incube de tous les gestes. Spasme vers l'intérieur de tous les objets force. Souteneur de tout l'univers. Catin de tous les systèmes solaires. Combien de fois j'embrasse ton portrait. Là où tu es maintenant. Je ne sais où, mais là, c'est Dieu. Tu sens cela? Je sais que tu le sens. Et mes baisers sont plus chauds, humainement. Mais c'est toi ainsi que tu les souhaites, mon vieux. Et de tout là-bas, tu remercies. Je le sais bien. Quelque chose me le dit, une grâce dans mon esprit, une érection arbitraire et indirecte du fond de mon âme. Rien d'engageant en toi. Tu es plutôt cyclopéen et musculeux. Cependant, devant l'univers, ton attitude était celle d'une femme. Et chaque herbe, chaque pierre, chaque pore était pour toi l'univers. Mon vieux Walt, mon grand camarade, Évoé, j'appartiens à ton orgie bachique de sensations en liberté. Je suis des tiens, de la sensation de mes pieds à la nausée de mes rêves. Je suis des tiens, regarde-moi, de là-bas, depuis Dieu, tu me vois à l'envers. Du dedans vers le dehors. Mon corps, c'est ce que tu devines. Mon âme, ce que tu vois. Elle, tu la vois vraiment. Mon corps, tu le vois par ses yeux. Regarde-moi. Je sais que moi, Alvaro de Campos, ingénieur, poète sensationniste, je ne suis pas ton disciple, je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton chantre. Je sais que je suis toi et tu en es content. Tu ne peux jamais lire tes vers d'une seule traite. Il y a trop à sentir. Je traverse tes vers comme une foule qui me bouscule. Et je sens des odeurs de sueur, d'huile, d'activité humaine et mécanique. Dans tes vers, à un moment donné, je ne sais plus si je lis ou si je vis. Je ne sais plus si ma place réelle est dans le monde ou dans tes vers. Je ne sais plus si je suis ici, debout sur la pierre naturelle, ou la tête en bas, pendue par une sorte d'appareil, au plafond naturel de ton inspiration débordante, au milieu du plafond de ton inaccessible intensité. Je suis une colline indistincte de forces gorgées d'infini qui dirige vers toutes les directions de tous les côtés de l'espace. La vie, cette chose énorme, c'est ce qui prend tout et tout réunit. Il fait que toutes les forces qui hurlent en moi leur rage ne sortent pas de moi, ne brisent pas mon être, ne cassent pas mon corps, ne me jettent pas comme une bombe de l'esprit qui explose. Sang, chair et âme spiritualisée au milieu des étoiles, au-delà des soleils d'autres systèmes, au-delà des astres les plus lointains. Tu es ce qu'il y a à l'intérieur de moi, tend à redevenir tout. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi tend à se déverser sur le sol, sur le vaste sol suprême qui n'est ni en haut ni en bas, mais sous les étoiles et les soleils, sous les âmes et les corps par une méprise oblique de notre sens intellectuel. Je suis une flamme qui s'élève, mais je m'élève vers le bas et vers le haut. Je m'élève de tous les côtés en même temps. Je suis un globe de flammes explosives qui cherche Dieu et qui brûle la croûte de mes sens, le mur de ma logique, mon intelligence limitatrice et glacée. Je suis une grande machine mue par de grandes courroies, dont je ne vois que la partie qui s'accroche à mes tambours. Le reste s'en va au-delà des astres, passe au-delà des soleils et ne semble jamais parvenir au tambour d'où il provient. Mon corps est le centre d'une roue splendide et infinie, toujours vertigineusement en mouvement autour de soi-même, s'entrecroisant dans toutes les directions avec d'autres roues qui s'interpénètrent et se mélangent parce que tout cela n'est pas dans l'espace, mais je ne sais quel lieu spatial d'une autre manière Dieu. En moi sont prisonniers, rivés au sol, tous les mouvements qui composent l'univers. La furie minutieuse et les atomes, la furie de toutes les flammes, la rage de tous les vents, l'écume furieuse de tous les fleuves qui se précipitent, la pluie avec des pierres lancées par des catapultes, d'énormes armées de nains cachées par le ciel. Je suis une formidable dynamique contrainte à l'équilibre, contenue dans mon corps sans pouvoir déborder de mon âme. Rugis, éclate, vint, brise, tonitrue, secoue, frémit, tremble, écume, vente, viole, explose. Perds-toi, transcende-toi, circonvolue-toi, vis-toi, romps et fuis, sois avec mon corps tout entier, l'univers tout entier et la vie. Brûle avec tout mon être de tous les feux et de toutes les lumières, dessine avec toute mon âme tous les éclairs et les feux. Survis-moi dans ma vie tout entière et dans toutes les directions.
Cabo Verde tão grande quanto Paris. É atriz da beleza do amor, é imperatriz. Já nasceu com a força da sua voz na garganta, um presente de Deus, uma mulher que canta.
Et voilà, Tito, une heure avec Fernando Pessoa, Alvaro de Campos. Ça finit bien vite, ça passe, le temps passe et court. On m'a fait signe qu'il fallait se quitter. Tu as un petit mot à dire avant qu'on
se quitte?
Oui,
là, c'est en écoutant un hommage à César et Evre, c'est bien. C'est, ça nous amène à la semaine prochaine à l'Aude Maritime, au voyage, aux îles.
L'invitation au voyage, l'Aude Maritime. Ça sera la semaine prochaine sur Filigrane Apprécie, sur Divergence FM. Pardon, Aurélie, d'avoir débordé de quelques minutes. Merci à tous. Très bonne semaine. Lusophone, lusophile et puis
bon
universel.
Filigrana imprecisa. Um toque de calçada e palavras imensas sussurram olhares precisos. Na Divergência FM.
Filigrane imprécis. Poésie, littérature, musique, lignes chaotiques, murmures clamés d'un chant portugais sur Divergence FM.